Un mouchard, conte parisien. Il avait nom Mocharès. Son père était, ou plutôt avait été, car il était mort, huissier au pays de Gascogne, de telle sorte que l'âme de l'enfant s'était ouverte au milieu des péripéties, ville à la fois et terrible, de cette chasse aux pauvres dont l'État accrédite les Némrodes. Il n'avait vu que saisie, n'avait entendu que protêt, et sa mémoire de gosse n'était tentée que de visions de vente à l'encan, devant les chaumières ou sur les mailles, tableaux d'imprécations et de larmes. L'excuse d'un pareil métier serait d'enrichir au moins ce qu'il exerce, n'est-ce pas? Or, il paraît qu'il n'en est rien. L'huissier était parti à peu près aussi pauvre que les jobs qu'il jetait au fumier, laissant à son fils le soin d'une vieille mère d'abord, plus deux sœurs à nourrir, élever, vêtir, et puis mariés, s'il était possible. Ces trois créatures très douces traînaient leur vie, là-bas, aux alentours de Périgueux, dans un carré de choux, ou plutôt de pois, à l'orée d'une châtaigneraie, entre six poules, deux chats, et un compagnon de Monseigneur Saint-Antoine. Mocharès, qui les adorait, était venu à Paris pour leur gagner de l'argent, car à Périgueux, il n'y a rien à faire pour les poètes. Il l'était, le malheureux. La loi des contrastes semble commander aux œuvres de la nature. Elle se plaît à tirer, pour les croisements, un poète d'un huissier, comme un huissier d'un poète, si ça l'amuse. Et la physiologie, science exacte, y perd, comme on dit, ses lunettes. Comme toutes les économies paternelles avaient fondu à son éducation, Mocharès avait de la culture, de la lecture, et il était, en outre, vraiment doué pour le métier si beau, mais si inutile, des lettres. C'était à la fin du Second Empire. L'opposition se déchaînait. Elle jetait ses cris d'orfraie dans une foule de journaux agressifs, intrépides, où il se dépensait un talent considérable, et Mocharès s'y trouva l'emploi de sa verve, très pessimiste d'ailleurs, et noir comme les rêbes. Ses articles teintaient le glas non seulement du régime, mais de la société tout entière. Il semblait y vouloir venger tous les pauvres bougres, c'était son style, saisi et vendu par son père. Quant à lui, il se privait de tout, s'alimentait de bouillie de châtaigne, et envoyait, là-bas, à la maman et aux chères sœurettes, le peu qu'il arrachait aux caisses précaires des organes, hélas, plus précaires encore. Je le connus à cette époque, dans un de ces cafés littéraires du boulevard, où la presse libérale forgeait ses bombes contre le gouvernement de Rouher, le vice-empereur, et pour préciser, au café de Madrid. Ce fut là que l'excellent Carja nous le présenta avec enthousiasme. « Le pur des purs, nous dit-il, comme l'eau qu'il boit du reste. » Mocharès, en effet, n'avait devant lui qu'une carafe. « Il ne noue plus qu'à moitié. » Malgré son beau front chevelu, ou dardait, comme des soupiraux de cuisine sous un dôme, des yeux enflammés, couleur de cuivre. Il fallut qu'après son départ, Carja, qui les savait, nous expliquât l'homme et sa vie, pour que, le talent aidant, nous revînmes sur notre impression défavorable. Puis Mocharès se fit plus rare sur les boulevards. Les journaux où il plaçait sa copie révolutionnaire disparaissaient l'un après l'autre, abattus ou muselés par le rude vice-empereur, et les gens de plume commençaient à être remplacés par les gens d'action, qui descendent dans la rue et la dépavent. Que devenait Mocharès? Comment faisait-il vivre, et de quoi? Les trois femmes aimées du carré de pois périgourdin qui formait son saint roman de poète. Je l'avais bien rencontré un jour, dans les galeries du Palais-Royal, et j'avais même échangé quelques mots avec lui au sujet de son éclipse. Mais ce qu'il m'en avait dit sonnait tellement la blague que je n'y avais vu que l'un de ces faux fuyants ironiques par lesquels on écarte une curiosité importune. « Que devenez-vous, Mocharès ?»« Vous le voyez. » « Et qu'est-ce que vous faites ?»« Je suis mouchard. » Et nous nous étions séparés en riant sur cette fumisterie que j'étais allé raconter au café de Madrid où elle avait paru très boulevardière. « Mocharès, Mocharès, elle est bien bonne !» Il l'était. Nous ne le sûmes d'ailleurs que longtemps après, et nous en fûmes alors comme foudroyés. Oh, cet effrayant Paris où l'on voit de pareilles choses, et cette société détestable qui les rend possibles. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Lorsqu'il ne trouva plus à placer sa copie nulle part, Moscheles se mit résolument à la recherche d'une besogne quelconque, fût-elle manuelle. Mais on ne s'improvise pas bon ouvrier d'un métier qu'on ignore, et les spécialités se défendent de l'homme à tout faire. Si sobre qu'il fût, et si brave, le fils de l'huissier connut bientôt l'horreur des jours sans vivre et sans abri. Il les acceptait comme rachat de la terre originelle, et dans les asiles de nuit, à la corde, ses insomnies fiévreuses s'éclairaient de la chandelle des vents à l'encan, lugubre, de son enfance. Il n'en voyait plus rien là-bas, et sa mère mourut. Pour qu'il pût aller l'ensevelir, Carja organisa une collecte au Madrid, et, grâce à un confrère de la presse gouvernementale, on put y joindre un permis de circulation sur la ligne. Quand il revint, un mois après, il nous remboursa tous et chacun de nos petites contributions à la collecte. Il avait tout vendu, meubles, immeubles, carrés de poids, et il ramenait à Paris la plus jeune de ses sœurs. L'aînée restait en Périgord, servante de ferme pour le pain. Il s'installa avec la cadette dans un logis de la rue Saint-Lazare, et nous n'entendîmes plus parler de lui jusqu'au jour de notre rencontre au Palais-Royal. Moscheles, Moscheles, elle est bien bonne! Un soir, c'était au moment où les premières émeutes ébranlaient déjà le trône napoléonien, Moscheles passa devant la terrasse du café où nous étions réunis dans l'attente de ses nouvelles. Il s'arrêta, nous regarda, sourit, parut hésiter, et délibérément entra. Il n'y avait pas de lieu à Paris où les choses et les gens de l'Empire fussent plus honnis, conspués, voués à l'exécration, et cela à toute voix, sans taire les noms ou voiler les termes. Un roussin de force moyenne n'avait qu'à venir là, prendre un verre et écouter, pour faire la plus riche provende de délation professionnelle. Les Tuileries la dansaient dans toutes les absinthes. « Ah, c'est Moscheles !» Et 20 mains se tendaient vers le transfuge. Il n'en prit aucune, même celle du bon Carja, stupéfait de cette réserve. « Tiens, qu'est-ce que tu as ?» Il souleva la tête sans répondre, tira une chaise et s'assit au milieu du groupe, comme d'habitude. « Ta sœur va bien ?»« Oui, je te remercie. » Je viens de la faire entrer chez une grande modiste. Elle est très heureuse. L'aînée se marie au pays. J'ai pu la doter un peu, ce qui ne nuit pas en ménage. La maman a son petit monument et des fleurs. Tout va bien maintenant. Et toi, tu es nippé comme Brummel? Il le faut bien dans le métier. À propos, tu vas recevoir mon recueil de vers. Je l'ai dédicacé ce matin pour toi. Très républicain, tu sais, le volume, naturellement. Mais il y en a aussi pour ma polonaise. Quelle polonaise? Comment, tu ne sais pas? Et Moscheles se mit à rire. Et puis, se penchant sur Carja, il lui jeta un nom aristocratique dans l'oreille. Toi, une comtesse? Toi, un pur? Oui, et je lui dois tout, en somme. C'est elle qui m'a présenté à la préfecture. De police? « Oui ? C'est donc vrai, alors ? Tu l'es ? Mouchard ! Parbleu ! » Nous nous étions tous dressés, comme bien on pense. Et Carja, blême. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?»« Mon métier, » fit Moscheles en hautant les épaules. « Que vous êtes bête !» Si l'on a vu un bourbon tomber dans une ruche d'abeilles, on peut imaginer l'effet produit par cet aveu cynique sur les habitués du Madrid à cette époque, en pleine effervescence révolutionnaire. Les uns brandissaient leurs verres, soucoupes et bouteilles. Les autres avaient empoigné leurs chaises, levé leurs cannes, et la huée était énorme. « Va dire de ma part à Rouet qu'il n'est qu'une canaille. Mort à Bindinguet et à son épouse. Régime de sang et de boue. Les honnêtes gens lui crachent leur dégoût. » Et ainsi de suite, toute la litanie des malédictions dont les châtiments du Juvénal de Guernesey nous dictaient le glossaire. « Pas si vite, » disait Moscheles, très calme et presque souriant, « les uns après les autres. Je n'ai pas le temps de vous reconnaître. Parlez chacun votre tour. » Et il tira son calepin de sa poche. Nous acceptâmes son défi. Chacun proféra son injure propre contre le tyran et la tyrannie, cela la dictant, cela l'autographiant eux-mêmes, et tous la signèrent. « Tu en auras pour ton argent !» hurlait Carja hors de lui. « Et tu peux revenir. Chaque soir, tu nous retrouveras ici, et nous t'aiderons à gagner le pain de honte que tu manges. » Alors Moucharès voulut parler. Il se leva, blanc comme linge, et il demanda le silence d'un geste. Mais sous un tollé formidable, on le pousse à la rue sans l'entendre. Moucharès se fit tuer sous la commune, dans les rangs des fédérés, à l'entrée dans Paris des troupes de M. Thiers. Il était parmi les plus enragés contre les Versaillais. Quelqu'un que je pourrais nommer, si ce n'était pas trahir la confiance d'un vieil ami, m'a fait lire secrètement à la préfecture les rapports du mouchard Moucharès. Dossier J.P. numéro 614 à 644. Ce ne sont que diatribes de camarades. Carja, Étienne, poète et photographe, le meilleur homme de Paris, serviable à l'excès, admire passionnément l'impératrice, partage toutes les idées de l'empereur sur le paupérisme, ne reproche à M. Rouher que d'être auvergnat, encore dit-il que ce n'est pas sa faute. Et tous les autres à l'avenant. Plusieurs des délations sont en vers. La police secrète était bien faible sous le Second Empire. Émile Bergerat, lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.